Bonjour chers auditeurs, Claire Tiercelin au micro pour l'émission « Viens et suis-moi ». Je vais vous présenter l'itinéraire d'un de nos prêtres diocésains qui, avant d'arriver à son ordination en juin 1989, a vécu un parcours vraiment étonnant. Il a accepté de me parler pendant plusieurs heures et j'ai été très impressionnée par le récit de sa vie. Vous avez peut-être été son paroissien ou sa paroissienne, car il a exercé son ministère dans plusieurs églises du diocèse. Dreux, Cloyes, Viabon, La Ferté-Vidame, Illier, Orgères et aujourd'hui Janville. Ce prêtre, c'est Monsieur l'abbé Jean-Pierre Cornic. L'abbé Cornic est né en 1952 à la chapelle Guillaume, dans le Perchegouët, de parents instituteurs. Comme beaucoup d'enfants à cette époque, il a été baptisé, peut-être sous l'influence d'une grand-mère. Mais il n'a pas suivi le catéchisme, car son père avait dit à son épouse au moment de leur mariage « Nos enfants n'iront pas au catéchisme ». Il a donc été élevé en dehors de toute connaissance et de toute pratique religieuse et son père adhérait au Parti communiste. Plus tard, à l'école publique de Mainvilliers, où la famille vivait alors, ses copains voulaient l'entraîner au catéchisme, mais il n'en avait absolument pas l'envie. Après sa classe de troisième, il entre à l'école normale pour se préparer à la profession d'instituteur. Au cours des 2 années de formation, il fait un stage dans le quartier de la Madeleine à Chartres. Il enseigne à une classe de 39 élèves de CE2. Il essaye de trouver beaucoup d'exercices par le sport, par des activités de psychomotricité, par des disciplines d'éveil comme le chant, le dessin, pour que les enfants puissent s'épanouir et lui se sent très heureux dans cette profession. Au plan personnel, il s'initie à la musique et au dessin pour développer ses capacités intérieures car il sentait qu'il y avait en lui une dimension qui lui échappait. Et il me relate un fait qui a été le début d'une progression vers sa conversion. Au mois de février 1972, il entre dans la librairie Lester, place du Cygne à Chartres. Il attendait que la vendeuse s'occupe de lui. Il était seul dans la librairie. Tout à coup, il sent une force impérieuse qui lui dit intérieurement de se retourner. Et là, il se trouve face à un livre qui le fascine, le titre « L'Occulte ». Il l'achète. Et ce livre sera déterminant pour lui à ce moment-là. Ce livre traitait d'expériences paranormales, parapsychologiques, mais expliquées d'une façon méthodique et assez profonde. Par ce biais, il s'ouvre à l'invisible, au surnaturel. Comme il le dit, « J'arrive à l'Église catholique par des moyens pas très catholiques. Dieu peut permettre sur notre chemin des signes par lesquels il veut nous faire avancer, même si ces signes peuvent nous paraître quelquefois très surprenants. Il commence à entrevoir une lumière au milieu de ses tâtonnements et à pressentir plus fortement la dimension qui manquait à sa vie, la dimension spirituelle. Après plusieurs mois de rencontres, de discussions, de lectures, de recherches avec des amis qui avaient les mêmes préoccupations, il découvre l'Église catholique et le Christ. Et il sent profondément que c'est ce qu'il cherchait, que c'est vraiment dans l'Église qu'il trouverait son épanouissement spirituel. Jusqu'à ce jour, pour lui, la religion était l'opium du peuple, comme on disait dans les milieux athées, mais la grâce l'a touché. Il avait besoin d'approfondir, de chercher, et il a été attiré vers la lumière. En novembre 1974, il décide d'entrer dans l'Église. « La foi, me dit-il, m'a été donnée. Elle s'est quasiment imposée à moi pour mon bonheur. C'était vraiment un don de Dieu. » Il habitait alors tout près de la cathédrale. Il a rencontré l'abbé Manuel. Il s'est aperçu qu'ils étaient voisins dans la rue du Cheval Blanc. Et l'abbé Jean-Robert, qui l'ont beaucoup aidé dans son cheminement. Et à Pâques 1975, il fait sa première communion. Et, me confie-t-il, jusqu'à présent, c'était comme si j'avais vécu avec un ciel gris 30 cm au-dessus de ma tête. Et à ce moment, les nuages se sont dissipés. C'est la lumière de Dieu qui est entrée dans ma vie. Le chemin du ciel s'est ouvert pour moi. J'ai vécu là des moments assez extraordinaires. Il ne se sent plus motivé maintenant pour poursuivre sa formation d'instituteur, alors il entre chez les compagnons du Tour de France pour devenir charpentier près de Toulouse. Mais dès qu'il le pouvait, il se rendait dans un monastère pendant le week-end et là, il avoue qu'il sentait une grande paix. Une atmosphère spirituelle l'envahissait, il se sentait vraiment très bien. Après Toulouse, il travaille à Angers et là, il se rend très souvent à l'abbaye de Solesmes et à celle de Bellefontaine. Mais il se rend compte que le contact lui manque. Il laisse cette activité pour devenir animateur, entre autres, à la mairie de Mainvilliers. Et il enchaîne classe de neige, classe de mer, centre aéré. Entre deux, il fait les vendanges pendant l'automne, il voyage et il continue à aller régulièrement dans les abbayes de Soligny, Solesmes pour tester sa vocation. Il se rend compte qu'il est de plus en plus attiré par ces lieux de silence et de prière. Ce qui a beaucoup compté aussi pour lui, ce sont ses voyages. Avant de rentrer au séminaire en 1979, il a été en Inde en voiture, en 4L. Il a traversé la Turquie, l'Iran, l'Afghanistan, le Pakistan et l'Inde, où il est allé visiter des monastères bouddhistes au Ladakh, dans le nord de l'Inde. Quelques mois avant d'entrer au séminaire, en 1981, avec un ami, il va à Jérusalem en autostop. En partant de Paris, la Providence les aidera très efficacement. Une seule voiture leur fera faire près de 4000 km. De Karlsruhe en Allemagne jusqu'en Syrie. Ensuite, ils vont en Jordanie, à Petra, pour rentrer ensuite en Terre Sainte, où ils découvrent Jérusalem et les lieux saints. Ensuite, ils vont en Égypte et Jean-Pierre se rend seul au monastère Sainte-Catherine dans le Sinaï, à l'endroit du buisson ardent, toujours en autostop. Son ami ayant dû repartir en France. Ce monastère impressionnant est le plus ancien de la chrétienté. De là, il monte au mont Moïse où le grand prophète a reçu les tables de la loi. Dans un autre voyage, il va au mont Athos où il passe 5 jours. Le mont Athos est un territoire de Grèce où il n'y a que des monastères. La Sainte Montagne, c'est en quelque sorte une république monastique, quasiment une terre sainte pour les orthodoxes dans une presqu'île au nord de la Grèce. Et voici ce qui l'a marqué. Se rendre au mont Athos, c'est se réfugier dans un monde échappant presque totalement à la folle pression de la technologie moderne. C'est aussi s'imprégner de la profonde piété de ceux qui habitent la Sainte Montagne, considérée dans la tradition chrétienne comme le jardin de la Vierge Marie. Celle-ci y aurait été jetée par une tempête alors qu'elle naviguait en mer Égée. Alors qu'elle louait la beauté de la péninsule, elle entendit la voix de son fils lui dire « Que ce lieu soit un héritage et ton jardin un paradis et un havre de ceux qui cherchent le salut. » Cela l'est sans aucun doute pour les seuls hommes dont la dévotion à la Vierge est très exclusive. L'abbé Cornic est reparti à d'autres reprises en Égypte pour découvrir les monastères coptes. En Égypte et en Éthiopie, où il se rend également, il découvre d'autres églises chrétiennes d'une grande originalité par rapport à la nôtre. En Éthiopie, avec les fameuses églises monolithes de Lalibela, la Jérusalem noire. En Égypte, il loge souvent chez l'évêque copte catholique de Louxor, Mgr Zacharias, qui avait un grand sens de l'hospitalité et était extrêmement bienveillant. Ce sens de l'hospitalité l'a beaucoup marqué, particulièrement de la part des musulmans. Dans un petit village palestinien, en revenant du Mont Tabor pour aller à Nazareth, dans une épicerie, il regardait ce qu'il pouvait acheter. Une femme palestinienne lui dit d'attendre. Elle revient avec 2 plateaux repas, refusant d'être dédommagée. Il y a d'autres exemples qui l'ont encore impressionné. En France, comme il se sentait très à l'aise dans les monastères, il pense qu'il a peut-être une vocation de moine. Et il fait 3 tentatives, dont une chez les Carmes de Gomerville en Eure-et-Loire, mais très vite, il se rend compte que ce n'est pas sa voie. Le cheminement de l'abbé Cornic vers le sacerdoce a été un long chemin. Je consacrerai donc ma prochaine émission dans 1 mois pour le suivre jusqu'à son ordination. Au revoir, chers auditeurs. Vos clama.
Pas.